vous avez vos livres, c'est le moment de les ouvrir.
C'était déjà le moment avant.
Vous pouvez les ouvrir, mais c'est le moment de l'ouvrir en vue de la méditation de la parole de notre Dieu. Nous poursuivons dans l'épître de Paul aux Galates et nous lisons ce matin les 14 premiers versets du chapitre 3. Donc nous avançons dans son livre. J'avais l'intention d'avancer plus vite ce matin. Et j'ai étudié la possibilité de lire tout le chapitre 3 jusqu'à ce que je réalise en le creusant un peu plus que la fin du chapitre 3 ne peut pas être coupée d'une partie du chapitre 4 et donc il m'a semblé quand même bon de le couper quand même ce matin, mais j'avais envie d'avancer un petit peu plus parce qu'il y a un piège. D'ailleurs, c'est, combien parmi vous, faudra couper ça de l'enregistrement, c'est pas utile, mais combien parmi vous avez déjà participer dans une église à une série de prédications dans le livre de Galates. Je ne parle pas d'un verset ici et là, je parle le livre entier. D'accord, quelques-uns quand même. Ok. Parce qu'il y a un piège dans ce livre. C'est qu'on a l'impression de tout le temps revenir sur le même sujet, de la loi, de la foi, etc. Là, et de se dire, mais oh là là, il va y avoir encore une répétition, etc. Et il y a un vrai piège. Mais en fait, à chaque paragraphe, on découvre un élément nouveau, un élément fort, et ça montre aussi à quel point la thématique que Paul adresse ici aux chrétiennes et aux chrétiens de Galate est une thématique qui en fait est beaucoup plus ancrée dans nos cœurs qu'on le pense. On est profondément légaliste en nous. On est profondément à vouloir avoir notre part dans notre salut et notre part dans la responsabilité. Et on a une part dans notre responsabilité, mais qu'est-ce qu'on tombe facilement dans le piège du légalisme? Donc quand Paul prend tout le temps d'écrire et de développer, alors il ne le fait pas que là, mais il le fait particulièrement là, ça peut être un peu embêtant. Donc, en tout cas, ce matin, je vous propose de nous arrêter au verset 1 à 14. Vous verrez, c'est déjà bien suffisant. Et nous poursuivrons la semaine prochaine, évidemment. Mais lisons ensemble la parole de notre Dieu. Galates, chapitre 3, verset 1 à 14. Pour la lecture de notre Dieu, vous l'avez tous compris, je vous invite à vous lever. Alors, on est une des rares églises qui faisant ça, dans mon protestant, en tout cas, ici. Mais je crois que... Je rappelle aussi pour les nouveaux, il paraît qu'il faut se répéter. Et j'ai cru comprendre que je ne me répétais pas assez. Désolé pour les anciens ici. Vous savez pourquoi nous faisons ça à la chapelle de Nel? Parce qu'il y a un livre qui m'est particulièrement cher dans la Bible, c'est le livre de Néhémie. Et dans le livre de Néhémie, il est clairement dit que le peuple s'est levé pour écouter la parole de Dieu. De même que vous constaterez peut-être qu'on se lève et qu'on s'assoit, par exemple, dans les églises où on se lève systématiquement quand on chante. On ne se lève pas toujours quand on chante, parce que ce n'est pas toujours... La communication de la gestuelle de se lever quand on devrait plutôt être à genoux n'est pas à propos. Donc on sélectionne le moment où on se lève et on s'assoit, et bien de même pour la lecture de la parole de Dieu. On se lève. La différence avec Néhémie, c'est qu'il reste debout pendant toute la prédication. Donc je vous accorde la grâce de vous rasseoir là-dessus. Mais en tout cas, lisons ensemble dans le livre des Galates, chapitre 3, versets 1 à 14. Ô Galates insensés, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant avec foi? Êtes-vous tellement insensés? Après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous fait tant d'expériences en vain? Si du moins c'est en vain. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Ainsi, Abraham crut Dieu et cela lui fut compté comme justice. Reconnaissez-le donc, ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham le croyant. Tous ceux en effet qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique ». Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisque le juste vivra par la foi. Or, la loi ne provient pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. » Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit qui a donné aux prophètes, aux apôtres, aux auteurs du Nouveau Testament, qui ont donné de parler de ta part. Seigneur, il y a là un grand mystère. Nous ne comprenons pas tout, mais ce que nous savons, c'est que tu parles, et que quand tu parles, tu agis. Notre prière, Seigneur, c'est que ta parole, ce matin, agisse en nous. Que ta parole touche nos pensées, et touche nos cœurs, afin de toucher nos vies. Prions, Seigneur, qu'il y ait une véritable œuvre de repentance en nous, de changement de nos pensées, et de changement de nos cœurs, et de changement de nos vies. Oh, pas juste parce qu'il faut changer, mais parce qu'on a besoin de changer. Parce qu'on a besoin que tes pensées deviennent nôtres. Seigneur, nous nous égarons si facilement, même dans nos raisonnements. Que Seigneur, tu sois celui qui nous parle, que nous soyons seuls et ceux qui écoutons. Que Seigneur, ton esprit, celui qui a inspiré Paul dans cet épître, que ton Esprit Saint, présent ici, maintenant, nous parle, nous donne de saisir ce que chacune et chacun de nous avons besoin de saisir, afin que ton œuvre se fasse en nous, afin que ta parole porte du fruit. Seigneur, nous te rendons grâce de nous donner ta parole, de nous donner l'occasion de la lire ensemble. Maintenant, parle-nous, Seigneur, nous le prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à reprendre place. Je vais commencer par une question. Une question faisant appel pour chacune et chacun d'entre nous du jour, si on peut le préciser comme tel, ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas d'un moment dans notre vie où nous avons vécu un grand moment spirituel, où on a vécu un grand moment d'enthousiasme spirituel. Pour certains parmi nous, ça serait peut-être une conversion. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on a compris l'Évangile et on l'a reçu. Pour d'autres parmi nous, c'est peut-être un moment où on a simplement, parce qu'on a grandi dans une famille chrétienne, qu'on ne peut pas se souvenir d'un jour précis, mais il y a eu un moment dans notre existence où on a compris quelque chose et ça a donné en nous un élan. On était tout autre. Personne ne pouvait nous reconnaître presque. On pouvait voir qu'il y avait quelque chose de changé en nous. Est-ce qu'on se souvient de ça? Est-ce qu'on peut se tracer dans notre vie un moment où nous avions été particulièrement proches du Seigneur? Certains parmi nous ici sont suffisamment jeunes dans la foi pour voir que c'est encore tout frais, tout vivant ici, et donc c'est rafraîchissant de vous voir. Mais pour d'autres, c'est peut-être plus ancien, c'est peut-être même très ancien. Pour certains d'entre nous, ça remonte peut-être à un certain nombre d'années. Et à ce stade, j'aimerais simplement faire un petit travail de mémoire. Est-ce que l'on peut se rappeler cet enthousiasme, cet élan de foi, ce que c'était, et peut-être dire, mais qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que c'est un peu loin derrière? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du calmé, peut-être même refroidi? Est-il possible que, si on pense à ces moments, on puisse dire, mais oui, on a un peu perdu notre enthousiasme. On a un peu perdu cette flamme qui était en lui. Et si tel est le cas, la question suivante, c'est pourquoi? Est-ce que quelque chose peut l'expliquer? Alors, autant dire tout de suite qu'il y a quand même quelque chose de normal dans la situation. Je ne veux pas donner une fausse culpabilité ici, je ne veux pas donner l'impression qu'on doit toujours être sur le sommet de la montagne, parce qu'on n'est pas toujours au sommet de la montagne. Il y a des moments où on doit traverser la vallée de l'ombre de la mort. Il y a des moments où on n'est pas aussi dans les hauts, il y a des moments plus bas que d'autres. Et il est vrai que quand on vit des moments particulièrement forts dans le Seigneur, eh bien, on sait qu'on ne va pas être complètement tout le temps comme ça ici. Et mon point ici ce matin, ce n'est pas de lancer une espèce de culpabilité des mal placés. Ce n'est pas du tout le but. Simplement de dire, si tel est le cas, si c'est tout simplement qu'avec le temps, on n'est pas aussi enthousiaste, on n'est pas aussi sous l'effet de l'excitation spirituelle, eh bien, c'est peut-être qu'on a peut-être besoin d'un petit coup de fouet, un petit renouveau, un peu de revitalisation, c'est longtemps que je n'ai pas dit le mot. Donc voilà, ça c'est la partie un petit peu normale et positive. Mais le point que je veux faire ici, c'est que parfois si on veut être honnête avec soi-même, et on ne le dit à personne d'autre ici, on est entre nous, c'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de le dire à votre voisin, votre voisine, d'autant plus qu'ils sont distants de deux chaises en général, hein. Mais si on est honnête avec soi-même, est-il possible que je puisse voir dans ma vie qu'il y avait un moment où j'étais vraiment enthousiaste avec le Seigneur? Je sentais cette proximité avec lui. Je ne la sens plus aujourd'hui. Est-il possible que ce soit parce qu'il y a en effet une vraie distance qui s'est créée? Est-il possible, par exemple, que cette distance soit liée au fait que lorsque j'étais jeune chrétien, chaque verset de la Bible que je pouvais lire était enthousiasmant, c'était une découverte, et je pouvais bondir, en parler autour de moi, etc. Mais maintenant, je la connais bien, cette Bible. Elle ne me donne pas vraiment de fraîcheur. Elle ne me renouvelle pas. Peut-être même je l'ai tellement étudiée, peut-être même j'ai tellement appris à voir ses structures, peut-être je l'ai tellement même théologisée, c'est pas un verbe, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Je l'ai tellement mis des structures que je lis ma Bible en disant, ah oui, au fait, l'introduction, elle est là, puis la deuxième partie, elle est là, et j'en oublie à dire, mais au fait, elle me dit quoi? Et peut-être que j'en suis arrivé à un point où je l'étudie tellement que j'en deviens sec. Vous savez, un de mes grands chocs pendant mes études de théologie, c'était pas que pour moi, on en parlait avec Carole, mais on le voyait au monde des étudiants. La différence des étudiants en théologie, et pourtant une bonne faculté, hein, une très bonne faculté, il y avait un bon enseignement, hein, mais la différence entre les premiers jours et la remise des diplômes, c'est que bien souvent on avait perdu notre enthousiasme. Parce que les études de théologie peuvent être très sèches, très desséchantes. On étudie les mécanismes, on étudie le grec et l'hébreu. Et selon les professeurs, je ne verrai jamais, le professeur que je cite de temps en temps, Pierre Courtier, là on avait un professeur, il vivait son cours. Chaque cours était comme une prédication. Et en général, quand il prêchait, en général, à chaque fois qu'il a entendu prêcher, c'était d'un revitalisant extraordinaire. Mais pour d'autres professeurs, c'était un cours. C'était technique. Et pour nous étudiants, on devait lire, on devait apprendre, on devait travailler, on devait écrire, et on se rendait compte qu'on se desséchait spirituellement. Et c'est quelque chose que malheureusement on voit, et j'ai envie de dire presque ici, on souffre de notre côté occidental des choses. Quand je dis occidental des choses, c'est-à-dire qu'on a appris à faire de l'académie. On a appris à étudier de façon académique. Et si vous remarquez dans le Nouveau Testament, l'Ancien culture aussi, mais ce n'est pas comme ça que ça se faisait. Quand Jésus formait ses disciples, ce n'était pas un institut biblique ou une faculté de théologie. C'était du discipulat. L'enseignement était toujours étroitement lié à la vie, au concret de la vie, au concret de l'existence. C'était un apprentissage spirituel au même moment où on faisait ses études. Et là, il y a matière à garder de la vitalité. Il y a donc peut-être un piège à étudier, à bien connaître la parole, et à bien l'étudier, mais de façon académique, et de petit à petit voir notre cœur se dessécher. Je ne dis pas forcément se durcir, mais je dis se dessécher. Et on en perd notre enthousiasme. Autre exemple, plus sérieux, plus grave d'ailleurs. Peut-être aussi que notre enthousiasme n'est plus là parce que nous avons éteint l'esprit. Et généralement, si on éteint l'esprit, on commence par l'attrister. Et si on en arrive à éteindre l'esprit, cela veut dire que dans notre vie, et c'est souvent d'ailleurs, assez tôt après un moment de réveil spirituel, de conversion, et bien souvent, c'est parce qu'on fait un mauvais choix. Et on est conscient de ce mauvais choix. Il y a des moments où on prend des décisions dans notre vie, et ces décisions, en fait, on sait très bien qu'elles nous écartent. On s'argumente, on se donne tout ce qu'on a besoin de se dire pour dire « oui, mais non, mais c'est que pour un temps, je vais revenir ». Et en réalité, quelques temps plus tard, et peut-être sommes-nous en train de constater que nous sommes maintenant des années plus tard, et que notre cœur est sec, parce que tout simplement l'esprit n'est plus là. L'esprit ne nous parle plus parce qu'on l'a verrouillé, parce qu'on l'a éteint. Je n'ai pas dit ça souvent, mais il m'arrive de le dire et je le dis ici. Je commence à me faire plus jeune. mais déjà relativement jeune dans le ministère. Là où ce dont je parle ici, je l'ai vu comme un fléau et je le vois encore. C'est particulièrement auprès de nos jeunes gens. Quand nos jeunes gens font, entre autres, un choix de mariage, un choix de conjugalité. C'est extraordinaire combien j'ai vu de jeunes gens enthousiastes pour le Seigneur et tout perdre, éteindre l'esprit. Et de voir comment ils pouvaient se refroidir et s'égarer. Et certains d'entre eux sont même carrément devenus hostiles à l'Évangile ou à l'Église, se sont retirés de l'Église. D'autres, ils sont restés, mais ont construit une argumentation pour justifier leur choix. Et on peut dire, l'enthousiasme n'est plus là. Il peut y avoir des motivations, mais il n'y a plus cet enthousiasme spirituel qui est là. Alors pourquoi est-ce que je dis ceci? Parce que je me demande si ce que j'évoque en ce moment n'est pas la situation que l'on trouve dans les Galates. Je me demande si ce n'est pas là ce à quoi Paul se trouve confronté lorsqu'il fait le questionnement qu'il questionne ici. Verset 1er, il questionne d'ailleurs pas sans provocation. On sent que Paul, il va du piquant ici. Il est en train de dire un petit peu, mais où est votre enthousiasme? Où est la foi que vous aviez? Qu'avez-vous fait de cet évangile qui brûlait en vous? Est-ce que l'esprit est éteint? Est-ce que tout simplement vous vous êtes desséché? Est-ce que vous vous êtes égaré? Verset 1er, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié? Verset 2, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Façon de dire, ok, donnez-moi une leçon, j'ai besoin de comprendre. Alors, on sait très bien qu'il n'a pas besoin de comprendre plus, mais il dit, ok, faites-moi un cours un petit peu de la raison pour laquelle vous êtes comme vous êtes ici. Voici seulement ce que je veux entendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'esprit ou en écoutant avec foi? J'y vois là, il peut y avoir plein de choses. Ça serait, d'ailleurs, c'est le genre de texte, ça serait très intéressant de l'aborder en étude biblique plutôt, hein, et d'avoir des retours, de voir comment on voit les choses. Et d'ailleurs, ça pourrait se faire dans l'avenir. Mais en tout cas, piste que je vous propose ici, est-il possible que ce qu'il entend par pratiquer la loi? Et au passage, d'ailleurs, je vais faire tout de suite une parenthèse extrêmement importante. Tout le début du culte, ici, j'ai parlé de la loi de façon positive. La loi est bonne. Elle nous instruit. Elle nous montre ce qu'on a besoin de comprendre ici. Quand Paul ici est en train de parler ici, est-ce en ayant pratiqué la loi, ce qu'il est en train de dire ici, c'est un peu comme je dis tout à l'heure avec l'étude de la Bible. Est-ce que j'étudie la Bible, mais avec la mauvaise motivation? Est-ce que j'étudie la Bible pour être un savant de la Bible? Est-ce que j'applique la loi pour dire, je fais ce que je dois faire pour être bien comme il faut? Est-ce que je prends la parole de Dieu comme elle doit être prise? Rappelons-nous, quand Dieu parle, l'objectif, c'est qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ma vie. Quand je lis la Bible, ça doit toucher mon cœur. Ça doit changer ma pensée. Ça doit transformer mes décisions. Est-il possible que quand je lis ma Bible, ce ne soit que de la mécanique académique? Est-il possible que ce soit juste pour justifier certaines choses? Est-il possible que ma lecture de la loi ne soit que de la théologie sèche? Est-il possible que la lecture de la Bible soit enfermée, soit cadenassée, soit cloué dans certains endroits? Est-il possible que mon étude de la Bible, de la loi, soit sans piété, c'est-à-dire sans pratique, sans vrai vécu de mon cœur ici? Paul provoque la question ici. Je crois avoir évoqué ceci, mais je le redis ici, et c'était très intéressant. Lorsqu'on est arrivé à Bordeaux avec Carole, pendant un temps, la même semaine, je prêchais le matin à Bordeaux, d'une communauté comme ici à Chapelle de Nesle, toute neuve, toute fraîche, enfin neuve, elle commence à avoir de l'âge aussi, mais les premières années ici, mais c'était des boussouflants de voir les personnes qui venaient, qui avaient tout simplement soif. Donc, ce qui était prêché, dans les deux cas que je vais évoquer ici, il y avait annonce de la parole, prédication ou étude publique, puis il y avait questions, et beaucoup de questions des deux côtés. Mais à Bordeaux même, les questions étaient... Mais on n'avait jamais vu ça dans la Bible. Mais comment faut-il comprendre les choses? Et c'est extraordinaire, le Seigneur. On a même parfois ça discutait après le culte. On mangeait très souvent et on mangeait et ça fusait les questions. Et j'en disais, mais attendez, c'est ça que ça veut dire? Je dis, ben oui, mais c'est incroyable, je n'avais jamais compris comme ça. Je me souviens aussi d'une dame aussi, anciennement catholique, et j'étais en train de prêcher. J'avais évoqué dans le message que Pierre avait une femme. Et il y a une belle-mère. Et puis on voit dans les actes qu'il se déplace avec son épouse apparemment ici. Et puis elle revient, elle avait un accent alsacien, c'est-à-dire qu'elle dit, mais alors ça, j'ai jamais entendu une chose pareille dans mon église. Oui, c'est clair qu'à Rome, on n'allait pas dire que Pierre était marié, etc. Mais vous voyez, les questions étaient les... Alors, ce dernier est un mauvais exemple, mais les questions de soi. Parallèlement, on allait dans une autre église, dans laquelle une église très anciennement ancrée, ça ne veut pas dire qu'une église ancienne est forcément comme ça, ni qu'une église nouvelle est forcément comme ça, mais il y avait un contraste évident, c'est que la même étude ou le même message que donnait à ces chrétiennes et ces chrétiens de très longue date, ce n'était pas du tout les mêmes questions. En fait, les questions, j'ai vite compris que c'était des questions pièges. Les questions consistaient à chercher la faille. Dans l'enseignement que je donnais, ils cherchaient la faille parce que clairement les choses, quand la parole parle, elles troublent. Et quand elles troublent, soit on dit « je suis troublé, j'ai besoin de repentance, je change ma vie », soit on dit « oh, ça je ne veux plus l'entendre ». Donc, monsieur le pasteur, et c'était clairement ça, on cherchait la faille pour me prendre au piège, pour dire « ah, ah, vous voyez que vous vous trompez ». Et vous voyez, comment on peut étudier le même texte et le questionner de façon sèche ou vivante. Et je crois ici que la pointe que fait Paul, c'est de dire, est-ce que votre lecture de l'Écriture en pratiquant la loi, c'est est-ce que vous avez une lecture de la Bible, une lecture de la loi, une compréhension des choses et une pratique religieuse qui va avec, est-ce que c'est ça qui vous a donné de vivre la présence du Saint-Esprit en vous? Ou est-ce une démarche de foi? Dans l'exemple que j'ai donné, s'il y avait une démarche de foi, je veux comprendre pour vivre. Dans l'autre, il y avait une démarche de dureté de cœur. Je ne veux pas comprendre, en fait. Et mes questions, c'est pour que, monsieur le pasteur, vous n'ayez pas... Dans cette même église, j'ai même eu quelqu'un en plein culte qui m'a interrompu pour me dire, vous vous trompez, monsieur le pasteur, ce n'est pas la Bible qui dit ça. C'était très intéressant, je vous en parlerai plus à l'occasion. Mais en tout cas, voilà ici, Paul qui reprend, qui interroge, qui dit, apprenez-moi quelque chose, est-ce en pratiquant la loi de façon sèche, de façon académique pure, et reparenthèse, hein, c'est excellent l'académie, hein, c'est bon d'étudier, hein, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, la théologie est bonne quand elle est bonne, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, mais elle peut devenir sèche, elle peut enfermer les choses, et elle peut être une excuse pour ne pas aller plus en avant ici. Le problème, ce n'est pas l'Écriture, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas la loi, c'est la façon dont on l'apprend, c'est la façon dont on l'apprend dans les mains. Verset 3, « Après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant finir par la chair ?» Je vois là un exemple, justement, de quelqu'un qui a commencé par l'esprit et qui en arrive à un point où l'esprit est éteint. Alors ça devient la chair, ça devient mes œuvres, ça devient ma façon de voir les choses, sachant et peut-être même ayant oublié que je suis en porte-à-faux avec l'évangile de Jésus-Christ ici. Verset 4, « Avez-vous fait tant d'expériences en vain, si du moins c'est en vain ?» C'est Paul qui parle aux chrétiens et aux chrétiens de Galates ici. Il dit, « Avez-vous oublié ? Avez-vous oublié le processus des choses ? Avez-vous, où est-ce que vous étiez ? Où est-ce que vous êtes maintenant ? Et avez-vous oublié ? Avez-vous besoin de revitalisation ?» Allez, puisque j'ai déjà dit une fois, je vais le dire une deuxième fois. Hein. Rappelons-nous ce qu'est le principe de revitalisation. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi, c'est-à-dire repense, remets tes pensées justes et refais tes premières œuvres. Et Paul, et pas Paul, c'est Jean qui dit ça dans l'Apocalypse, enfin, c'est même Jésus qui dit ça à une église en disant, où est ton premier amour? Où est ton enthousiasme pour moi? Tu l'as perdu. Alors souviens-toi, remets en mémoire là où ça s'est arrêté. Repens-toi. Change ce qu'a dû changer là et refais tes premières œuvres. Façon de faire, ce qui ne dit pas, c'est attends que ton enthousiasme revienne tout seul. Donc il y a une action à mener ici. Qui est, fais travailler ta mémoire sur ce qui est bon, sur ce qui a fait faillite. Rappelle-toi de ces choses. Repens-toi. Refais tes premières œuvres ici. Verset 5, « Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez avec foi ?» Celui qui opère des miracles quand il le fait, le fait-il parce que vous avez une théologie sèche. Ou le fait-il parce que par la foi vous avancez. Parce que vous suivez le Seigneur. Vous écoutez sa parole et vous la mettez en pratique. Ce n'est pas forcément un rejet du Seigneur, ça peut l'être. Ce n'est pas forcément un rejet du Seigneur, ça peut être aussi tout simplement une vie chrétienne médiocre, justifiant le manque de consécration par des arguments en prenant la Bible. Et la raison pour laquelle je dis ceci, c'est que Paul va venir parler aux Galates précisément sur leur fondement biblique alors qu'ils sont secs, comme du bois prêt à mettre au feu. C'est très intéressant de voir la chose ici. Ainsi, Paul dit au verset 1er, « Ô Galates, insensés, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié ?» Le verbe employé ici pour dépeindre, on devrait plutôt dire décrire, mais il peut être justifié pour dépeindre, sachant que ce n'est pas le mot. Il est clair que Paul n'a pas fait un travail d'artiste, pris ses pinceaux et sa toile et fait une peinture de Christ crucifié. Ce n'est pas l'idée ici. Mais l'idée, c'est plutôt qu'il a donné une description très détaillée. Vous savez, quand j'écoute et quand je pense à certains orateurs, je les envie souvent parce que je n'y arrive pas. Mais il y a, vous avez des pasteurs, des orateurs qui, quand ils prêchent, ils vous donnent une photographie, vous fermez les yeux, vous pouvez voir les choses tellement, ils le développent d'une façon riche, pertinente et belle. C'est un vrai art oratoire. Hein. Paul est en train de dire, je vous ai décrit Jésus-Christ crucifié, ce qu'on a évoqué la semaine dernière. Vous croyez que Christ est mort et qu'il est ressuscité. L'avez-vous compris? Pourtant, regardez, je vous en ai donné l'explication en long, en large et en travers. Je vous ai donné les détails, je vous ai expliqué les choses. Qu'est-ce qui s'est passé en vous? Qu'est-ce qui peut faire que ce Christ que je vous ai dépeint, décrit, expliqué, présenté, que vous en faites juste un personnage de l'histoire, vous avez oublié votre relation à ce Jésus-Christ ici. Qu'est-ce qui a pu se passer que vous soyez fasciné ainsi? Eh bien, dans cet épître aux Galates, Paul poursuit son questionnement et jusque-là, il a, dans les chapitres 1 et 2, rappelons-nous qu'il a questionné leur évangile, hein, en parlant d'un évangile détourné, d'un évangile d'ailleurs, il va parler de perversion de l'évangile par rapport à l'évangile le seul et le vrai. D'ailleurs, il va dire, s'il y avait un autre évangile, il n'y a pas d'autre évangile, il n'y en a qu'un, c'est celui que je vous ai prêché ici. Et jusque-là, Paul également s'étonne de quel point les Galates accordent un crédit à des soi-disant sages, à des personnes qui sont venues, qui ont donné un autre évangile, un autre fait. Et Paul rappelle quand même qu'ils ont toutes les raisons de l'écouter lui, Paul, parce qu'il rappelle qu'il a une parole crédible et que la crédibilité de sa parole repose tout d'abord parce qu'il a été interpellé par l'auteur lui-même. Jésus-Christ ressuscité est venu sur le chemin de Damas, s'est révélé à lui et que les autres sages n'ont rien de similaire. Lui, il a une source authentique, directe, venant directement du Christ ressuscité. Puis il rappelle que c'est par le Saint-Esprit qu'il a été façonné et formé. Il rappelle ensuite qu'il a été approuvé par Pierre, par Jacques et par Jean. C'est quand même les trois principaux, ceux qui étaient dans l'intimité de Jésus, dans le cercle resserré des disciples, ceux à qui il a été confié plus de responsabilités. Puis après, il va dire, j'ai été approuvé par les 12. Je suis complètement au rang des apôtres. Et même plus, c'est le dernier exemple qu'il donne, c'est de dire, j'étais même tellement reconnu par les apôtres que j'ai même pu me positionner par rapport à Pierre lui-même. Et que personne ne m'a contredit là-dessus parce qu'il s'avère que j'avais raison. Donc Paul est en train de dire ici, de montrer qu'ils n'ont pas... Ils ont écouté un autre évangile, en train de dire, mais... Quelle crédibilité donner à ces auteurs par rapport à moi? Excusez-moi, mais ce n'est pas de la prétention, ce n'est pas de l'orgueil, simplement dit, j'ai été appelé, j'ai été témoin, j'ai entendu des choses, j'ai été mandaté, je vous les ai données, et comment se fait-il que vous partiez complètement à la dérive comme ça? Ça, c'était son argument pour montrer qu'ils n'ont pas saisi l'évangile à fond, puis comme on l'a évoqué la semaine dernière également, ils ont entendu parler de Pâques, ils savent ce que c'est que Pâques, mais ils n'ont pas compris le sens de Pâques. Ils n'ont pas compris ce que voulait dire Christ qui est mort et qui est ressuscité pour eux. Ils n'ont pas compris, comme Paul dira dans l'Épître aux Corinthiens, que si Christ n'est pas ressuscité, alors ma vie est vaine, ma prédication est vaine. Il n'y a rien, la vie ne vaut vraiment pas la peine d'être vécue plus que cela. Et la réponse à donner de la réalité de l'Évangile, c'est quand Paul dira, je suis crucifié avec Christ. Ce qui est important pour vous est encore bien plus important pour moi, et ça, je l'ai mis au pied du tombeau. Je suis mort à cela pour ressusciter en Jésus-Christ. Donc ça, c'est ce qu'il a dit jusque-là. Et maintenant, il poursuit dans son argument, dans ce chapitre 3, il poursuit dans son argument, dans sa défense pour l'Évangile, dans son combat contre le légalisme. Donc après avoir relevé que les Galates passent à côté de la personne de Paul et de son mandat apostolique, passent à côté même du sens de la Pâque, maintenant Paul les reprend sur l'argument même du fondement de l'Écriture. Et c'est quand même assez intéressant de voir qu'il va maintenant argumenter, Bible à la main, et va leur montrer quelque chose que les Galates n'ont pas l'air de comprendre. Ils lisent la Bible et ils ne la comprennent pas. Ils lisent des textes et ils ne voient pas en quoi ces textes appliquent ici. C'est que comme vous êtes passé à côté de mon mandat apostolique, comme vous passez à côté de la réalité de Pâques, maintenant vous passez à côté de vos Bibles. Vous passez à côté de votre propre texte de fondement, l'Ancien Testament. Quand même, c'est fort. Il dit, vous vous référez à Moïse, vous vous référez à Abraham. Eh bien tiens, on va aller les voir. Puisque ce sont vos références, allons voir Abraham, allons voir Moïse, et allons voir ce qu'ils disent, parce que vous verrez que ce qu'ils disent est d'une pertinence inouïe par rapport à l'Évangile. Paul est en train de faire un avant-goût du souffle de la réforme protestante avec un sola scriptura. Il est en train de les ramener au sens de l'Écriture pour qu'ils comprennent qu'il y a un sola gratia, que le message de l'Évangile est de la grâce et que la réponse est un sola fide, seulement la foi. Eh bien, rentrons dans ces quelques versets qui sont devant nous ici, parce qu'il dit, voilà, vous voulez regarder Abraham, eh bien, Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Il commence à une série de 6 citations, mais celle-ci est la citation introductive, et il y en aura 5 maintenant qui vont suivre. Il donne une citation, donc il prend l'Ancien Testament, il prend le texte biblique, et tout simplement est en train de dire, donc les amis, ça veut dire quoi, à votre avis, que Abraham crut? C'est pas que Abraham a fait un certain nombre de choses, c'est pas que Abraham a obéi à Dieu et parce qu'il a été un bon Abraham, bien gentil, bien comme il faut, qu'il a fait tout ce qu'il fallait, que Dieu va dire « Ah bah tiens, tu sais quoi Abraham ? Eh bien à toi je vais donner mon esprit, à toi je vais donner la promesse et à toi parce que tu es un bon gars, on va créer le monde. » Non, Abraham a cru Dieu. Dieu a parlé, Abraham a eu la foi. Il a cru Dieu et ceci lui a été compté comme justice. Et Paul le commentait, reconnaissez-le donc, chers frères et sœurs de l'église de Galates. Reconnaissez-le donc, ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Voilà. C'est-à-dire, la foi, dans sa réalité profonde de l'évangile, elle commence avec Abraham. En fait, elle commence même avant. Mais Abraham en est le personnage clé dans l'Ancien Testament ici. Il pose cet argument biblique en citant Genèse, chapitre 15 et verset 6. Et donc Paul maintenant rentre dans une série d'arguments. Premier argument, verset 8. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? C'était prévu dès le temps d'Abraham que l'Évangile serait pour les païens et que la réponse des païens serait une réponse de foi, que la place de la loi ici serait ailleurs. Et donc en disant, comme c'était prévu, intéressant quand même, hein, c'est pas venu comme ça par hasard avec Jésus qui est venu dire, au fait, maintenant on va faire un petit changement de programme, maintenant ça sera plus la loi, ça sera la grâce, maintenant ça sera plus les œuvres, ça sera la foi, etc. Non, Paul dit, c'était déjà Abraham, c'était déjà très clairement posé ici. Eh bien, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Et là, ici, Genèse 12, verset 3, « Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham, le croyant. » Beaucoup de choses à dire là-dessus, mais quelques pistes, quelques pensées ici. Qu'est-ce que Paul est en train de dire aux chrétiens et aux chrétiens de Galates ici? C'est que l'Église se trouve confrontée à des non-juifs. Donc, à des non-juifs, donc qui ne peuvent pas directement, comme certains le feraient, se dire « on est les fils d'Abraham ». Ce sont des païens qui sont parlés ici. Or, dans le contexte des Galates, si on le comprend bien ici, eh bien, les judaïsants qui sont là veulent faire de ces non-juifs des juifs. C'est-à-dire qu'ils sont en train de dire « vous devez rentrer dans la lignée d'Abraham ». Et comment pouvez-vous rentrer dans la lignée d'Abraham en y plaçant la loi et tout ce qui va avec, y compris et précisément la circoncision? C'est-à-dire qu'il veut faire des non-juifs, des juifs. Il est en train de dire, vous devez rentrer dans la seule et vraie lignée d'Abraham, qui est l'histoire du peuple d'Israël. Or, Paul démontre, texte biblique à l'appui, il est en train de démontrer que c'est l'inverse qui se passe depuis Abraham. Il est en train de démontrer qu'il ne s'agit pas d'intégrer des païens dans le judaïsme, mais de les joindre dans une dynamique commune et que c'était prévu comme tel. Vous m'avez peut-être entendu parler lorsque je donne une présentation de le concept d'alliance. De voir que cette alliance est comme un entonnoir qui s'ouvre de plus en plus. C'est d'abord, Dieu a une relation spécifique avec un homme qui s'appelle Abraham, qui est une relation de grâce et de foi. Dieu vient vers lui, Dieu parle, et la réponse qui est donnée est une réponse de foi. Puis d'un homme, ça devient une famille. Puis d'une famille, ça devient un peuple, dans lequel Moïse va jouer un rôle particulier. Puis d'un peuple, ça devient une nation, qui devient le peuple d'Israël avec le roi David. Et d'une nation, ça devient le monde entier par l'œuvre de Jésus-Christ. Ainsi, ce que Paul est en train de montrer, c'est l'Évangile, c'est comme un entonnoir qui s'ouvre et qui s'ouvre et qui s'ouvre. C'était prévu comme ça depuis le début. Et il est prévu maintenant que toutes les nations sont ouvertes à un message de la foi. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de refermer l'entonnoir dans l'autre sens et de faire qu'au lieu de s'ouvrir vers les nations, c'est les nations qui doivent rentrer dans une histoire particulière. Ici. Paul est en train de dire, vous vous trompez, ce n'est pas l'écriture qui est donnée ici. C'est la révélation du mystère dont Paul parle quand il va dire, j'ai reçu une révélation particulière. On avait vu avec Éphésiens, j'ai reçu un mystère. C'est-à-dire quelque chose qui est maintenant mis à jour, qui est dévoilé, c'est que les juifs et les non-juifs ont un même héritage. On rentre dans une même dynamique. Vous êtes en train de les faire revenir par l'autre porte. Et sans ceci, et vous passez à côté ici. Donc, premier argument qu'il donne en prenant l'écriture, toutes les nations seront bénies en toi. Il veut dire, c'est dans l'Ancien Testament, c'est dans la Bible que vous lisez. Comment la lisez-vous? Quelle lecture faites-vous de cette Bible? Parce que je n'ai pas l'impression que c'est une lecture qui vous mène au bon endroit. Et ce premier argument mène à un deuxième argument, celui des limites de la loi. Verset 10, tous ceux en effet qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. Paul ici est en train de dire que c'est dans l'Ancien Testament ça aussi. Ce n'est pas une nouveauté du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a clairement ce message, et ce message consiste à dire que la loi n'est pas là pour être un manuel de salut. La loi n'est pas là pour nous sauver. La loi n'est pas là pour transformer le monde en tant que tel, en tout cas pas dans cet ordre-là des choses. La loi est là pour être une pédagogie. Et ça, c'était déjà dit dès le départ. Parce qu'on ne peut pas tout faire ici. Les judaïsants inversent le rôle en pensant coopérer à leur relation avec Dieu. Le problème, c'est que cette approche, et c'est un petit peu celle qu'avait ce jeune homme qui vient voir Jésus, qu'on a lu tout à l'heure, c'est de dire, ben voilà, qu'est-ce que je peux faire de bon? C'est-à-dire que, ah oui, tu m'as donné une liste, en effet, oui, ça, Seigneur, c'est bon. Hein, je n'ai pas trompé, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça, j'aime Dieu, j'aime mon prochain, c'est très bon. Et dit, ok, alors il faut faire tout. S'il faut faire tout, il faut aussi que tu enlèves l'idolâtrie. Et là, ça pose problème. C'est une règle, l'approche de la loi est la règle du tout ou rien. Il faut un parfait, total, sans faute. Si on veut jouer ce jeu-là, pourquoi pas? C'est une possibilité, le texte le dit, c'est une possibilité. Mais il faut que ce soit un total sans faute. Seulement voilà, vous et moi avons un sérieux problème si on voulait rentrer dans cette piste-là. Parce qu'en admettant que, admettons que, voilà, le Saint-Esprit nous parle, nous transforme, et à partir de cet instant maintenant, je peux vivre sans aucune faute. Bon déjà, on sait tous que mission impossible, parce qu'il y a des choses dont on ne les a pas encore comprises. Mais en admettant que le problème, c'est que j'ai déjà un certain nombre d'années, que dès la conception, j'ai déjà fauté. Dès mes premiers jours, alors, pour ceux parmi nous qui avons été parents, hein, je ne parle même pas des grands-parents. Les grands-parents, on voit trop ça bien. Hein, mais quand on a été parents, hein, on sait que nos enfants sont déjà pécheurs. On sait comment ils savent nous manipuler dès le jeune âge. Oh, ils savent faire. Ils comprennent tout de suite comment faire les choses. Et on ne peut pas effacer ça. Donc l'idée d'un 100% sans faute est perdue d'avance. Et Paul ici, et j'ai entendu, ce n'est pas mieux que le Nouveau Testament, c'est clairement écrit dans l'Ancien Testament. Il fait référence à Deutéronome 27, 26. Il y a donc la primauté de la foi en Abraham qui montre les limites de la loi. Et ces limites de la loi nous mènent au troisième argument de Paul ici, c'est-à-dire ça nous mène à la réalité d'une bonne nouvelle. Verset 11, « Nul, que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, dit-il, puisque, il cite Habacuc 2.4, le juste vivra par la foi. Les judaïsants, toujours, faisant directement suite au point numéro 2, ne pouvant parvenir à être juste par l'observation de la loi, doivent comprendre que l'Ancien Testament donne là encore la clé de compréhension. Le juste vivra par la foi, repris à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, est un texte de l'Ancien Testament. Et c'est ce qui a été le moment tournant, crucial, fort dans les églises de la Réforme, en voyant combien le légalisme était fort par des pratiques, par des choses qu'il fallait faire pour gagner quelques jours du purgatoire, pour gagner du salut, et Luther sera particulièrement celui qui va évoquer, ce n'était pas le seul évidemment, évoquer ce texte, le juste vivra par la foi. Comment ça marchait ? Donc, primauté de la foi, limite de la loi, qui nous mène à la bonne nouvelle, de dire ce n'est pas par mes œuvres de la loi que je pourrais gagner quoi que ce soit. La bonne nouvelle, c'est que le juste vivra par la foi, ce qui mène au quatrième argument de l'apôtre Paul. Or, la loi ne provient pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Paul va mettre la loi à sa juste place ici. Dans la perspective de la révélation, Abraham a précédé Moïse. Ce n'est pas pour rien que ce n'est pas Moïse qui est venu d'abord avec les 10 commandements et qu'après il a été dit, bah maintenant ayez la foi. Non, dans l'histoire des choses, dans la révélation des choses, il y avait d'abord une réponse de foi, parce que c'est la seule chose qui compte, c'est de croire Dieu, croire en Dieu. Dans une démarche de foi, arrive la pleine place de la loi, Moïse qui vient, qui donne les commandements. Ces commandements ne sont pas nés avec Moïse, ils étaient là de toute éternité, mais ils sont là parce que maintenant, Dieu intervenant dans sa grâce, invite l'homme à répondre par la foi, à marcher par la foi. Le peuple a marché dans ce désert par la foi, enfin il était censé le faire en tout cas, c'est par la foi qu'ils ont traversé cette mer, c'est par la foi qu'ils ont été nourris et abreuvés, protégés, conduits, et c'est par la foi qu'ils se trouvent maintenant devant la montagne, c'est par la foi qu'ils reçoivent l'alliance, qu'ils reçoivent les choses, et là la loi joue ce rôle pédagogique, menant l'homme pécheur à voir son besoin de grâce. Et la loi joue ici un rôle pédagogique aussi, en donnant une ligne de conduite aux croyants, telle une lampe sur le sentier. Ainsi, ce n'est pas la loi qui précède la foi, mais la... je vais finir par m'y perdre, parce que loi et foi, ce n'est pas la loi qui précède la foi, mais et ce n'est pas la loi non plus qui produit la foi. Et ici, Paul cite Lévitique 18, verset 5. Par contre, le texte dont Paul parle ici va complètement s'appliquer dans l'Évangile, en la personne de Jésus-Christ. En effet, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles, et Jésus-Christ est le seul qui pourra revendiquer avoir accompli, lui, un sans faute, est le seul à pouvoir revendiquer être celui qui aura une obéissance absolument parfaite, et ainsi pourra être le seul à revendiquer la bénédiction qui va avec cette pratique ici. Mais Jésus va plus loin et précède ainsi, et cet argument précède le cinquième et dernier argument ici, c'est que Jésus va aussi porter la malédiction de celles et de ceux qui ne réussissent pas. Il va porter ainsi la malédiction qui va se voir particulièrement par le fait qu'il sera, comme l'expression le dit, pendu au bois, pendu sur une croix ici. Verset suivant, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, dit Paul, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». Et là, Paul fait encore citation de l'Ancien Testament, livre de Deutéronome, chapitre 21 et verset 23. J'arrête ici cette liste de textes que Paul donne pour mettre le doigt sur un point, et j'ai envie de dire, s'il y a une chose qui me paraît absolument fondamentale et importante de retenir ce matin, donc c'est le moment de se réveiller, s'il y a une chose fondamentale à saisir ce matin, c'est que qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Il est en train de parler à des chrétiennes et des chrétiens qui croient en l'Écriture. En l'occurrence, je crois qu'on est tous ici dans ce état de fait, d'accord? On est tous en train de dire, on croit en la Bible, d'accord? Ce que Paul est en train de dire ici, c'est que vous pouvez lire l'Écriture et ne pas la comprendre. Vous pouvez lire l'Écriture sans en saisir son sens. Pourquoi ? Parce que l'Écriture, c'est ce qu'il est en train de dire aux Galates ici, l'Écriture a besoin d'une clé d'interprétation. Cette clé d'interprétation, Paul dit, je l'ai reçue de la part de Jésus-Christ. Et cette clé d'interprétation s'appelle
Jésus-Christ.
Tous ces textes de l'Ancien Testament peuvent être lus s'ils ne sont pas lus dans la perspective qu'ils s'accomplissent en Jésus-Christ, font qu'on va passer à côté des textes. De même que tous les textes du Nouveau Testament, s'ils ne se centrent pas sur la réalité de la personne de Jésus-Christ, nous pouvons passer complètement à côté. C'est-à-dire que Paul est en train de dire, vous lisez votre Bible, c'est bien. Vous vous attachez à l'Écriture, c'est bien. Vous faites de la théologie, c'est bien. Vous faites toutes ces choses, c'est bien. Mais si vous ne mettez pas Christ au centre, garantie, vous passez à côté. Autre façon de dire, tout était là dans l'Ancien Testament, tout était posé, mais l'aurions-nous trouvé tout seul? Aurions-nous été capables tout seul de dire, ah, en fait, il est... Alors oui, sur certains points, mais pas forcément sur tous. Il y a des petites nuances, même les textes qu'il cite ici, c'était pas dit, c'était clair dans tout le peuple d'Israël de l'Ancien Testament que ça serait dans la personne même du Messie. Pour certains, ça l'était, mais pas pour tous. Mais maintenant, la clé est là. C'est que maintenant, nous sommes devant cet argument ici. La clé d'interprétation se trouve en Jésus-Christ. Et c'est là le fondement. Et Paul est en train de dire, vous n'avez pas voulu écouter l'Évangile tel que je vous l'ai annoncé. J'ai pourtant la crédibilité de le faire. Jésus-Christ lui-même s'est révélé à moi. Les apôtres sont avec moi là-dessus. C'est le message de l'Évangile. C'est ce avec quoi vous êtes parti dans la vie. C'était votre bonne base ici. Et maintenant, vous avez perdu cette clé d'interprétation. C'est une des choses qui me trouble. Alors, je suis le premier à être faillible dans la prédication. Je suis le premier à ne pas réussir comme je voudrais tout le temps. Mais s'il y a une chose qui me trouble, c'est quand on visite des églises et qu'on entend exposer la parole, l'Écriture sainte, et de voir à quel point Christ n'est pas au centre de toute l'Écriture. Ça me trouble. Ça me trouble de voir même des églises qui mettent en avant leur orthodoxie doctrinale. Ça me trouble même de voir des écoles, des institutions qui forment des pasteurs et des prédicateurs qui ne font pas un point dans l'atelier de prédication sur cela. Je vois que le fait qu'ayant été remplaçant pendant un court temps, ils ne m'ont pas gardé longtemps, parce que non, ce n'était pas pour ça, j'étais un remplaçant. Et dans ce remplacement, j'étais stupéfait de voir la grille d'évaluation des prédicateurs. On parlait de technique, on parlait des trois points, on parlait du grec, on parlait de l'hébreu, on parlait de la théologie, on parlait de ça. Pas Christ. J'ai donné un exposé à ce sujet à des étudiants, et je leur ai dit, vous savez, bon, moi, je dois respecter la grille qui est là, mais écoutez, je me donne la liberté. J'aurais expliqué ce dont je suis en train de parler ici. L'idée, c'est pas de dire, ah oui, au fait, il faut mettre Jésus-Christ, pouf, on va mettre Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez que le texte, quel qu'il soit, est centré sur l'Évangile de Jésus-Christ? Si ça ressort dans votre prédication, je vous donne un point de bonus. Ils l'ont tous eu, leur point de bonus, parce qu'ils ont compris la chose. Mais ça m'a troublé de voir que ça ne faisait pas partie de la grille d'évaluation. Et je pense que ça nous mène, même nous, chrétiens, protestants, évangéliques, à passer à côté du texte de l'Évangile quand on lit les textes comme l'Ancien Testament. Oh, c'est important. Et je crois que Paul, ici, y met tout l'accent. Alors, qu'est-ce que ça change pour nous? Qu'est-ce que ça change pour nous? Souvenez-vous ce que Paul dit au tout début, verset 1er. Que dit Paul aux chrétiennes et aux chrétiens de Galates? Ô Galates, insensés. Ça ne rappelle pas quelque chose, cette expression, insensés. Je pense à Jésus, ce matin de Pâques, qui interpelle deux disciples. Deux disciples qui n'ont pas compris le message de l'Écriture. Qui n'ont pas compris ce que Jésus a dit, qui pourtant sont des disciples, qui pourtant ont entendu tellement de choses, leurs études, leurs connaissances ne les aident pas à voir les faits et la personne de Jésus-Christ qui est là devant eux, ressuscité, qui marche avec eux. Ils sont en train de lire les faits comme si Christ n'avait jamais dit la raison pour laquelle il était venu. Qu'il est venu pour accomplir la loi. Qu'il est venu pour prendre sur lui nos fautes. Qu'il est venu pour faire en sorte que la perfection de la loi que nous ne pouvons pas faire, lui va la faire à perfection. Que la malédiction qui va vers ceux qui ne la portent pas, va la prendre sur lui et va l'engloutir avec lui dans la mort pour ressusciter. Et Jésus qui dit, ô homme insensé, Ô homme sans intelligence, une autre traduction dit, dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les Écritures. Je crois que Paul dit la même chose. Et la question pour nous, est-il possible que notre manque d'enthousiasme, est-il possible que nos fragilités, notre manque d'élan, notre manque de foi pourraient-ils être liés au fait qu'on serait classifié d'insensé? Est-il possible que notre lecture de l'Écriture sainte passe à côté de la plaque? Est-il possible que la lecture de la Bible même passe à côté de la réalité parce que nous manquons de pertinence dans la clé d'interprétation de la lecture de nos Bibles, qui est la personne même et l'œuvre de Jésus-Christ? Alors, pouvons-nous peut-être nous laisser interpeller ce matin les uns les autres? Et moi le premier. Devrions-nous nous laisser interpeller pour que notre lecture de l'Écriture reste une lecture qui touche au cœur, qui touche nos pensées, qui touche nos décisions et qui nous rappelle que l'enjeu, ce n'est pas juste d'étudier la structure et les mots et d'apprendre les auteurs. Tout ça, c'est bon. Mais en quoi l'Écriture me rappelle et nourrit ma foi? En quoi ma lecture de l'Écriture me donne de plus proche de mon Père? En quoi la lecture de l'Écriture me laisse reprendre? Et en quoi je me laisse docilement redresser? En quoi je me donne de voir au Seigneur, oui, j'ai perdu ma flamme vis-à-vis de toi, parce que c'est vrai, il y a quelques années en arrière, j'ai fait un mauvais choix. Ce n'est jamais trop tard pour en revenir. Est-il possible que simplement je lis la Bible de façon mécanique, mais parce que ça me fait un peu peur de la lire de façon plus profonde, parce que je sais, Seigneur, que tu vas me dire des choses. Et je n'ai pas trop envie de les entendre en ce moment. Est-il possible qu'on soit dans cet état d'esprit où on est un petit peu flagada, on est un petit peu ramolli dans nos âmes, ramolli dans notre être? Et est-il possible que ce que Paul est en train de dire ici aux Galates nous interpelle pour que la façon dont on prend les Écritures soit ce qui nous renouvelle dans notre piété? Est-il possible donc que nous puissions avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, et ainsi comme ces deux disciples, ayant pris conscience de ce qui se passait, vont dire, notre cœur ne brûle-t-il pas? Notre cœur peut-il brûler ce matin? Rebrûler ce matin? Est-il possible de ranimer la flamme de l'esprit en nous, parce qu'on a besoin d'entendre Dieu dans sa parole? De nous laisser reprendre, de nous laisser conduire et de passer du stade de l'insensé au stade du disciple. C'est en tout cas ce que je nous propose de prendre ce matin comme bagage pour la semaine. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui n'est pas juste un contenu de sagesse et de connaissance. Merci pour ta parole qui n'est pas juste ici pour nous donner des préceptes, pour nous donner des choses à faire, à ne pas faire. Il y a tout cela. Merci surtout parce que, Seigneur, tu as fait le choix de devenir, toi la parole, un des nôtres. Tu es rentré dans notre existence pour que cette parole rentre dans notre existence. Tu es rentré, tu nous as visités et tu es venu nous donner la clé de lecture de tout ce qui doit être compris dans l'Écriture sainte. Et cette clé de lecture n'est pas là pour juste satisfaire nos pensées. Ça doit changer nos pensées. Mais en changeant nos pensées, ça doit changer nos cœurs. Et en changeant nos cœurs, ça doit changer nos vies. Seigneur, peux-tu nous rappeler ce matin ce que peut-être nous avons connu, là où peut-être nous avons commencé par l'Esprit? Peux-tu nous rappeler ce matin ce qui nous manque? Peux-tu nous rappeler ce matin notre besoin de revenir vers toi? Peux-tu par ton esprit renouveler nos pensées, nos cœurs, nos vies, afin, Seigneur, marchions avec toi en disciple. Seigneur, visite-nous et merci pour cette grâce. Tu ne nous diras jamais, certainement pas ce matin, tu ne nous diras jamais, ça fait 20 ans que je t'attends, c'est trop tard. Non. Tu pourras nous dire, ça fait 99 ans que je t'attends et mes bras sont toujours ouverts. Et ma parole peut toujours agir dans ton cœur. Il est toujours temps pour toi de revenir à moi et de voir mon esprit brûler en toi. Merci Seigneur pour ces promesses. Donne-nous de les saisir, de les prendre ce matin et de repartir avec et de te laisser agir en nous. Et nous te le demandons dans le nom de Jésus.